Bonsoir, comment allez-vous? Vous connaissez les coloriages pour adultes. Cette activité, autrefois réservée aux enfants, concerne maintenant les grands. Et elle les déstresse. Et pourquoi pas? J'ai chez moi un paquet de cacahuètes de très bonne qualité en train de rancir dans leur emballage, car personne ne les touche, leur préférant des cacahuètes déjà décortiquées. Si j'en prends un en train de colorier pour se détendre, je lui mets direct mon paquet de cacahuètes sur l'établi. Ce genre d'activité qui occupe les mains et suffisamment la tête nous manque beaucoup. L'activité tout court nous manque beaucoup. C'est un progrès magnifique d'avoir de l'eau au robinet, de ne pas avoir à aller la chercher à 2 km. Mais si nous ne marchons plus, comment évacuer le stress et les tracas inhérents à la vie? Prenez un petit problème pas énorme, disons un léger désaccord. Après 2 heures de marche, ce petit désaccord a fondu comme neige au soleil. Mais après 2 heures de voiture, il a amplifié à force d'avoir été mouliné dans une tête enfermée. Les déprimés sont souvent honteux de l'être, pensant qu'ils sont trop fragiles. J'ai envie de leur dire que si Charlemagne, Géronimo ou Rackham le Rouge avaient voyagé en RER puis étaient restés assis toute la journée devant un écran, il y a fort à parier qu'ils eussent été beaucoup plus abattus qu'eux.
Bonjour, j'ai 51 ans aujourd'hui et je voudrais savoir si Homo sapiens est la dernière espèce apparue sur Terre ou s'il y en a eu d'autres depuis.
Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi les espèces évoluent-elles.
61 ans à vous deux et bon anniversaire. Voilà. Alors Pascal Pic, on vous demande si Homo sapiens est la dernière espèce apparue sur Terre ou s'il y en a eu d'autres depuis. Et Samuel, pourquoi les espèces évoluent-elles?
Eh bien, il y a toujours du changement dans la nature et pour deux grands types de raisons. D'abord, les catastrophes dites naturelles. Bon, tout le monde a vu Jurassic Park. On sait que les météorites peuvent bouleverser le monde et évidemment la Terre et les écosystèmes. Et les espèces, il y a le volcanisme, il y a les courants océaniques, voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui vont affecter l'histoire de la vie. Certaines espèces vont disparaître, d'autres vont se modifier. Pour parler des dinosaures, par exemple, ils n'ont pas tous disparu, puisque les oiseaux sont les dinosaures d'aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'on n'évolue pas seul. Ce sont les écosystèmes qui évoluent. Nous évoluons, nous coévoluons, c'est le vrai terme en fait, avec toutes les espèces qui sont autour de nous, et en ce qui concerne l'homme, bien sûr, il y a tous les parasites, les agents qui nous rendent malades, mais nous avons aussi des micro-organismes qui sont nos amis, comme ces bactéries que nous avons dans les intestins, et il y a les prédateurs, il y a les concurrents pour les nourritures, il y a ceux avec lesquels nous montons des associations, et bien tout ça fait que les écosystèmes changent tout le temps à des rythmes plus ou moins importants. Et par exemple, la coévolution, c'est une belle histoire entre les insectes qui butinent, les fleurs, les singes, les fruits. Ben, tout ça, c'est des systèmes d'entraide, de compétition qui font que ça change tout le temps. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, bien sûr, on a tous appris l'évolution de l'homme au singulier et avec l'idée que tout de même, il y avait une finalité avec cet homme triomphant à l'issue donc de millions et millions d'années donc de changement. Et ça, c'est un vieux mythe, hein, c'est un vieux mythe que nous avons dans toutes les cultures humaines, exprimé d'une manière ou d'une autre, qui laisse entendre que, ok, il y a bien d'autres espèces, mais l'homme est quand même au centre de l'univers. L'homme est une espèce récente, mais tout aussi récente que toutes les espèces qui nous entourent. Les chimpanzés d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Pareil pour les chevaux, pareil pour les bactéries, pareil pour la grippe. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de coévolution. Il faut bien comprendre une fois pour toutes que toutes les espèces qui nous entourent ne sont pas restées en panne d'évolution et que, en fait, notre avenir se fera aussi avec elles. Donc, bien comprendre qu'on n'évolue pas tout seul et que l'avenir pour les générations futures, des futurs auditeurs, des jeunes auditeurs qui posent toutes ces questions, ben, ça ne se fera pas tout seul, ça se fera aussi avec tout ce qui nous entoure, ça s'appelle la biodiversité.
Pascal Pic est paléo-anthropologue au Collège de France. Vous savez qu'au Collège de France, à Paris, dans un très joli quartier en plus, il y a des cours accessible à tous pour connaître les thèmes et les jours et les heures. Eh bien, le site du Collège de France sera sur celui des petits bateaux. Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons avec Ernst Zürcher comment se forment les forêts, avec Sabrina Mervin si c'est Mahomet qui a écrit le Coran et en quelle langue, et nous saurons avec le docteur Frédéric Salman qui a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour. Joël Dehas, vous le connaissez au petit bateau, il est vétérinaire.
Bonjour, c'est Thibault. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a des courses de trotteurs alors que ce ne sont pas les chevaux les plus rapides. Au revoir.
Thibaut, course de trotteur, Joël Dehas.
Alors, course de trotteur et course de galopeur, tout simplement, on a sélectionné des chevaux pour avoir des attitudes particulières telles que le trot ou des attitudes particulières telles que le galop. Chez le cheval, c'est sûr que le trot et le galop se valent non pas dans la vitesse, mais dans l'endurance. Par contre, chez le chien, il y a d'énormes différences. Chez le chien, on a aussi des galopeurs et des trotteurs. Le lévrier est un galopeur, il va courir sur quelques centaines de mètres, voire sur quelques kilomètres, à une vitesse qui peut dépasser les 60, voire 70 km heure.
C'est performant, hein?
C'est performant. Par contre, il va pas pouvoir courir 50 km comme ça. Parce qu'il y a des mouvements de bassin qui font que c'est beaucoup trop énergétivore, ça consomme beaucoup trop d'énergie de galoper. Chez le cheval, pas, parce que le galop peut se faire sans mouvement de bassin, sans mouvement d'ondulation, ce qui fait que le cheval peut galoper pendant des heures, pendant des dizaines de kilomètres. Par contre, chez le chien, c'est le trotteur qui va avoir le plus de performance en durée et en kilomètres. Et les huskies qui font du trot, qui tirent les traîneaux, mais ils peuvent courir plus de 200 kilomètres par jour. Imaginez-vous, ils peuvent faire ça jour après jour pendant une dizaine de jours.
Au trot.
Au trot, mais pas au galop. C'est impossible au galop.
Non, un chien fait 200 km.
Un chien bien entraîné peut faire plus de 200 km par jour, plus d'une semaine d'affilée.
En tractant.
En tirant un traîneau, pas tout seul, mais avec ses congénères, oui.
Vive les chiens, le docteur Joël Dehas a écrit « Changer le comportement de mon chien en 7 jours ». Quel programme, édité chez Odile Jacob.
Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons. Des trucs entendus dans des chansons, consternation. Elle croyait que j'étais coureur, que j'arrivais des 24 heures avec mon casque en couleur, alors admiration. Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé, admirateur fasciné, télévision. Dis partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air. Elle passe par le 80 m'attraction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en coureur très beau. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Croyait que j'étais chanteur, incognito voyageur, tourné sur nos filles en pleurs, admiration. Faut dire que j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit chante-moi une chanson, j'ai avalé deux trois maxitons. Puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en chanteur très beau. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le garde arrière. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon. Je suis bidon. Je suis bidon.
Alain Souchon, je suis bidon.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions sur notre répondeur au 01 56 40 43 57 et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Egon, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi qui a dit qu'il fallait qu'on mange le repas du midi, le repas du soir et le déjeuner. Merci, au revoir.
Bonsoir Egon, j'aime bien ta façon de poser ta question avec le qui a dit. Alors nous avons trouvé pour toi Egon un médecin nutritionniste puisque tu nous parles de repas. Le docteur Frédéric Salman, vous êtes cardiologue et nutritionniste et vous avez surtout écrit pour nous profanes un livre chez Albin Michel qui s'appelle « Votre santé sans risque ». C'est pas mal l'interrogation d'Egon.
J'adore ta question parce qu'elle est au cœur de l'actualité scientifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'interroge, est-ce qu'il faut prendre 2 repas, 3 repas? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, en fait, on a commencé par travailler sur le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel? C'est s'arrêter de manger pendant 12 à 16 heures en buvant de l'eau, du thé, des tisanes. Et puis, on regarde ce qui se passe. En fait, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le nombre d'erreurs de copie augmente, pouvant donner lieu, par exemple, à des cancers. Ben, il se trouve qu'on a fait jeûner des souris un jour par semaine, elles ont fait tout de suite 20% de cancers en moins. Chez les humains, quand on observe 12 à 16 heures de jeûne chez les adultes, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. En fait, c'est comme si on réactive une mémoire biologique ancienne. On fait moins d'erreurs de copie. D'ailleurs, toutes les religions, depuis le début de l'humanité, parlent de jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. On sait faire face au manque, mais pas à l'excès. Et en fait, ce jeûne séquentiel permet de lutter contre notre obsolescence programmée, de nous réinitialiser en passant un petit peu en basse énergie quelque temps, et surtout de lutter contre le vieillissement.
Egon, excusez-moi, je pense qu'il sent, vu le son de sa voix, docteur Salman, je suis pas sûr que le vieillissement soit sa préoccupation principale.
Toujours, je veux dire qu'on considère aujourd'hui que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc, finalement, Egon, t'as un champ immense devant toi, tu vois.
Alors, pour lui répondre à Egon, cette histoire de 3 repas par jour qu'il a l'air un petit peu de remettre en question, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça.
Alors, il y a, par rapport aux enfants qui sont en croissance, effectivement, 3 repas par jour, on le comprend parce qu'ils grandissent. Mais nous, adultes, on n'a pas ta chance, Egon. On ne l'a pas parce que nous, on a déjà grandi. Et là, on s'aperçoit que ma position, c'est il faut se mettre à table si on a faim. Écouter les signaux de son corps, tout simplement. Le « il faut », quand les gens se forcent, ils n'ont pas faim, je ne comprends pas très bien l'intérêt pour un adulte.
Alors, pour revenir aux enfants, nos enfants français font à peu près 3 repas par jour. Les anglo-saxons, j'ai noté ça, mangent non-stop. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je m'arrache les cheveux quand je vois les anglo-saxons. Parce qu'il faut laisser à l'organisme le temps de faire une pause. Digérer, c'est pas rien. C'est d'une part mobiliser des hormones, des enzymes, pour que le bol alimentaire progresse dans les intestins. Ça fait travailler le foie, les reins. Il faut laisser à l'organisme le temps de souffler, de se réparer, de régénérer. Manger tout le temps, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une façon d'augmenter l'état inflammatoire et d'ouvrir la porte à bien des maladies.
Merci, docteur Frédéric Salman. C'est un principe des petits bateaux que de passer du coq à l'âne et du corps à l'esprit.
Bonjour, je m'appelle Léonard, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Marcel Mouloudji et je voudrais savoir si c'est Mahomet qui a écrit lui-même le Coran et en quelle langue. Merci.
Oh, est-ce que c'est Mahomet qui a écrit lui-même le Coran et en quelle langue? Merci, Léonard, tout le monde doit te le dire. Évidemment, ça fait penser à Léonard de Vinci, qu'on appelait Léonard tout court. Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS, vous êtes historienne, vous êtes ethnologue. Alors, est-ce que c'est Mahomet qui a écrit lui-même le Coran? Et si oui, en quelle langue?
Alors, merci Léonard pour la question. Ce n'est pas Mahomet qui a écrit le Coran. Pour les musulmans, dans les doctrines, c'est la parole de Dieu, le Coran. Hein, c'est vraiment le verbe divin qui a été révélé au prophète, donc à Mohammed ou Mahomet, qui sont envoyés sur Terre par le biais de l'ange Gabriel. Gabriel lui aurait en quelque sorte soufflé de temps à autre quand la situation s'y prêtait ou quand il était lui-même inspiré par Dieu, il lui a soufflé un texte qui est donc une récitation. C'est ce que c'est le sens du mot Coran, parce que donc le prophète a fait cette récitation oralement. Il n'a pas écrit de livre. Il a récité un texte qui lui était donc inspiré par Dieu via un ange.
C'est presque comme l'écriture automatique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui te dit que
c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Et ensuite, donc, Mohammed a prêché ce message aux gens qui étaient autour de lui. Les gens qui étaient autour de lui étaient des Arabes, donc ils parlaient l'arabe. Et la révélation s'est faite en arabe. Dans le Coran, il est même dit justement que la révélation a été faite en arabe, dans cet arabe clair. Et puis ensuite, le Coran a été mis par écrit. Mais ce n'est pas même pas Mohammed qui l'a mis par écrit, ce sont ses successeurs.
Donc en fait, le Coran a été mis par écrit par ceux qui ont entendu la parole de Mohammed. Mais Mohammed, ce n'était que des cordes vocales, c'était en fait le texte de Dieu.
Voilà, exactement.
Et ça a été écrit en arabe.
Bien sûr.
Mais l'arabe, c'est une langue compliquée. En plus, il y a de l'arabe littéraire. Pour écrire en arabe, il faut quand même être drôlement savant.
Oui, mais à l'époque, ils ont écrit dans l'arabe qui était celui de l'époque, qui est devenu l'arabe littéraire, si vous voulez.
Sabrina Mervin, c'est un petit peu comme les évangiles avec les apôtres du Christ, finalement.
C'est pas tout à fait la même chose, parce que ce sont quand même des paroles qui ont beaucoup circulé et qui ont été récitées par cœur. Et ensuite... et qui ont été au départ écrites sur des omoplates de chameau. Et ensuite, bon, le quatrième calife Osman a ordonné la recension, donc la collection de ces textes pour en faire un livre.
Je crois que c'est l'ange Gabriel qui a soufflé le Coran. Je suis toujours étonnée de la présence très importante des anges, aussi bien dans les œuvres d'art que dans les textes. Ibéi, à ne pas confondre avec notre Ali Rébéi, de 10h du matin sur France Inter. Là, il s'agit, oh, vous en avez beaucoup entendu parler ici, de ces deux magnifiques jumelles chanteuses.
Bonjour, je m'appelle Lina et je voudrais savoir comment les forêts se sont formées. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Lina, ta question, nous l'avons proposée, tu imagines, à un ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialiste bernoise, où tu iras peut-être en Suisse, ou bien à l'École polytechnique également de Lausanne. Ernst Zürcher, vous avez écrit « Les arbres entre visibles et invisibles », c'est édité chez Actes Sud. Lina parle de forêt, comment se forme-t-elle ?
Mettons les choses à plat, on s'imagine...
C'est rare pour un Suisse. C'est pas de très bon goût.
Alors, je dévie maintenant un petit peu de mon expression. Mettons les choses en pente. Il y a eu une avalanche, un glissement de terrain qui a emporté la forêt. Et il reste une terre minérale, un sol minéral entièrement dénudé. Et comment la forêt va se réimplanter sur cette tabula rasa? Et là, on a observé qu'il y a différentes essences, on appelle ça essences, les espèces d'arbres, différentes essences dans ce processus. Il y a toute une métamorphose, toute une succession forestière qui va se mettre en place. Tout d'abord, ce sera des essences de lumière, des arbres qui ont besoin de beaucoup de lumière, qui ont des graines très légères, disséminées par le vent, des saules, des bouleaux, des mélèzes.
Oui, parce qu'ils auront plein de lumière, puisqu'ils seront tout sales.
Exactement. Ah, oui. Ils supportent beaucoup de lumière, ils ont besoin de beaucoup de lumière, ils ont des graines très légères, sont les premières à arriver, et ils vont faire le maximum sur une terre très pauvre. Mais ils ne vont pas vivre très longtemps. Et sous la couronne de ces arbres de lumière, l'ombre est relativement faible. C'est une ombre très diffuse. Et il y a un début de formation d'humus sous ces arbres, grâce aux feuilles mortes, aux branches mortes. Donc un premier léger humus et une première ombre diffuse. Et là, on a l'implantation d'une deuxième série d'arbres qu'on appelle les arbres de demi-lumière, ensuite les arbres de demi-ombre, et progressivement, une série, une cohorte fait la place à une autre série d'arbres qui vont pouvoir s'implanter dans un sol de plus en plus riche pour arriver à ce qu'on appelle la forêt climax avec des essences d'ombre.
En fait, ce que vous êtes en train de nous raconter, Hans Urscher, c'est que les premiers arbres sont des pionniers.
C'est exactement comme ça qu'on les appelle. Ah, c'est les essences pionnières. Ensuite, on a les essences intermédiaires et à la fin, les essences du climax, de la forêt finale qui va pouvoir vieillir pendant très très longtemps. Les premiers ont un bois qui n'est pas du tout durable, ce n'est pas voulu qu'il soit durable. Ils ne vont pas investir dans la durabilité, ils vont investir dans la rapidité et dans la dispersion facile, dans beaucoup de graines. Et progressivement, ce sera des bois de plus en plus durables parce que la forêt finale a besoin d'avoir des arbres qui sont plus hauts, plus solides, plus gros et faits pour durer pendant très longtemps en protégeant des sols très riches, capable de stocker énormément d'eau. Ça, c'est la belle forêt efficace par rapport au cycle hydrique, par exemple.
C'est une très très bonne nouvelle. Ça se fait tout seul?
C'est la succession naturelle des forêts. Et on a compris ça. Et la sylviculture naturelle imite ce phénomène et tient compte de ce phénomène et tire profit de ce phénomène. Contrairement aux plantations, où on met non pas les arbres en succession et en collaboration, en partenariat, en plantation, mais les arbres en concurrence. Et ça donne des arbres beaucoup moins intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux maladies. Ils ont un bois qui a une qualité inférieure parce qu'ils sont uniquement en concurrence pour les mêmes choses au même moment.
Ah, que c'est beau cette organisation de la nature. Merci Hans Urscher. Vous pourrez retrouver la réponse à cette question et même toute l'émission des petits bateaux sur franceinter.fr. Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard, Marjorie Devoucou, Elisabeth Collet, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir d'un petit 19h30.